Heather Baron, 33 ans, et son petit ami Karim Ernesto, 37 ans, ont tous les deux été reconnus coupables de meurtre avec préméditation et de torture. La famille de la jeune femme a déclaré que celle qu'ils aimaient était devenue un monstre.
C'est la photo de Heather lors de son arrestation. Elle n'a même pas l'air triste. Son enfant vient mourir. Et elle n'est pas triste. Elle est en colère. Pour moi, ce n'est pas ma sœur. C'est le monstre qu'elle est devenue.
Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse faire une chose pareille. Elle était tellement cruelle. Pour moi, c'est comme si c'était hier, et je pense à ce qu'Anthony a dû vivre. Je me sens coupable parce que je lui avais promis de le protéger, mais je n'ai pas réussi.
C'est une photo de Heather et moi, quand on habitait dans le Missouri, à Noël. C'était une période heureuse. J'adorais ma sœur. Ça se voit sur cette photo. C'était avant que le mal s'empare d'elle. C'est difficile de faire le lien entre la personne sur cette photo et celle qu'elle est devenue. Celle qu'elle est aujourd'hui. On était toujours là l'une pour l'autre. Dans toutes les situations. C'était des jours heureux, et il n'y en a pas eu beaucoup. On était trois frères et sœurs. Moi, mon frère David, et ma sœur Heather. Je suis l'aînée. Mon frère a 2 ans de moins que moi. Et Heather a 1 an et demi de moins que lui. J'ai toujours été très proche de David. On avait les mêmes amis. On aimait la même musique. On s'est toujours très bien entendus. Heather a toujours eu une personnalité un peu à part. Elle ne s'intégrait pas bien avec nous. Elle était différente.
Heather avait plusieurs personnalités quand elle était enfant. Avec certaines personnes, c'était une princesse joyeuse. Mais avec d'autres, elle hurlait et était insupportable. Elle faisait souvent la victime pour que Crystal et moi soyons punis. Un jour, j'étais dans ma chambre en train de regarder la télévision et elle voulait faire de la gym. Elle marchait souvent sur le lit comme si c'était une poutre. Elle a glissé et en tombant, elle s'est cognée la bouche contre le lit en bois. Elle a dit à ma mère que je lui avais lancé un chausson pour la faire tomber.
J'en ai assez!
Quand mon beau-père est rentré, il m'a frappé. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Mais quand j'ai commencé à me faire punir, elle a arrêté. Elle me regardait. Avec son regard vide. Elle me regardait me faire battre. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dit ça. Et elle m'a répondu, parce que... Ça ne la dérangeait pas de se dire qu'elle m'avait fait du tort. Nous, ça nous terrorisait de savoir qu'à tout moment, elle pouvait dire quelque chose qui nous vaudrait une correction.
Quand elle nous dénonçait en connaissance de cause, je me sentais humiliée. Comme si je ne valais rien. Quand j'y repense, je me dis que Heather's la cruauté de Heather a commencé à un très jeune âge. Je crois qu'elle aimait voir les autres souffrir et qu'elle prenait des notes pour quand elle serait plus grande. Un jour, après l'école, j'ai invité une amie à la maison. Il n'y avait pas d'adultes.
C'est quand que c'est mon tour? Va-t'en!
Heather voulait jouer avec nous. Mais moi, je voulais rester avec mon amie. Heather s'énervait facilement. Elle a pris un couteau de cuisine. Elle a fait son sourire maléfique. Elle a dit, je vais vous poignarder. Et elle s'est mise à nous courir après avec le couteau à la main. J'avais très peur. Je pensais vraiment qu'elle allait essayer de nous tuer, mon ami, mon frère et moi.
Pose-le !
Arrête ! Je vois encore son regard. C'était comme si le mal s'était emparé d'elle. Plus on la suppliait d'arrêter, plus elle jubilait. On est allé s'enfermer dans la salle de bain et on s'est mis contre la porte pour l'empêcher d'entrer.
La lame du couteau passait sous la porte et Heather hurlait qu'elle allait tous nous tuer. Je leur ai dit de s'écarter de la porte parce qu'elle aurait pu nous poignarder à travers la porte. On ne pouvait pas appeler à l'aide, il n'y avait pas de portable à l'époque. J'avais vraiment peur qu'elle nous blesse ou qu'elle nous tue.
Une fois que Heather s'est calmée, mon ami est parti immédiatement. Quand j'ai enfin pu atteindre le téléphone, j'ai appelé ma mère au travail et je lui ai raconté ce qui venait de se passer. Elle m'a dit, pourquoi tu as laissé Heather jouer avec un couteau? On en reparlera quand je rentrerai. Avec David, on a tous les deux reçu des coups de ceinture ce soir-là.
Heather était à côté. Elle nous regardait dans les yeux. Elle nous observait. J'ai essayé d'oublier tout ce qui nous est arrivé quand on était petits. Je me souviens de certains détails, mais j'ai vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre. En grandissant, ma mère inventait de nouvelles punitions. Parce qu'elle trouvait qu'on ne souffrait pas assez. Les punitions qu'on endurait étaient horribles. Ça s'apparentait plus à de la torture. Et je ne comprendrai jamais pourquoi ma mère a laissé faire. Tout me revient en mémoire. Tous ces souvenirs que j'avais enfouis. Ils remontent à la surface.
J'y pense souvent. C'était fou de la voir faire. De voir son comportement évoluer. Elle a commencé par mentir pour qu'on soit puni. Puis elle a essayé de nous poignarder. Quand un enfant a aussi peu de respect pour la vie humaine, qu'est-ce que ça peut donner une fois adulte? À 16 ans, je suis tombée enceinte et je me suis mariée. Quand j'ai déménagé, on a commencé à entretenir une correspondance avec Heather. J'avais l'impression d'avoir enfin ce lien que j'avais toujours voulu avoir avec elle. Je sentais que Heather avait enfin mûri et qu'elle s'était dit « J'aime ma sœur, je veux être quelqu'un de bien et une bonne tante. » En 2006 ou 2007, Heather avait 16 ans. Elle avait un nouveau petit copain. Et elle est tombée enceinte. Je l'ai beaucoup soutenue parce qu'elle disait qu'elle voulait vraiment ce bébé. Et je voulais lui apporter le soutien que je n'avais pas eu quand j'étais moi-même tombée enceinte à 16 ans. Je pensais qu'elle était suffisamment entourée pour devenir une bonne mère. Le 4 mai, Anthony est né. Quand j'ai vu sa photo, j'ai fondu. Ce petit garçon, il était magnifique et en pleine santé. Je l'ai tout de suite aimé.
Anthony était très attendu. C'était le premier garçon de la famille. Il nous a permis de nous rassembler. On a oublié le passé et on était tous là pour Anthony. Heather avait l'air d'être heureuse. Mais au fond de moi, j'avais peur pour cet enfant. Quand Heather a emménagé, on a compris qu'elle n'était pas la mère qu'on avait imaginée. Le père d'Anthony s'en occupait beaucoup.
Joue ton rôle de mère! Tu ne fais rien!
On entendait Anthony pleurer la nuit parce qu'Heather ne se réveillait pas. Sa relation avec le père d'Anthony était instable.
C'est un bébé. C'est normal qu'il pleure quoi que je fasse.
On les entendait souvent se disputer. Ça tournait autour de la consommation de drogue, du fait de ne pas s'occuper du bébé. Ils s'accusaient de se tromper l'un l'autre. Leur relation n'était pas aussi parfaite que ce qu'on pouvait croire à première vue. À la fin, on avait l'impression qu'Heather voulait le pousser à la quitter pour pouvoir être avec un autre homme.
Disparaît de ma vie et de celle du bébé!
Elle lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de lui, qu'il ne valait rien. Et elle lui a dit qu'elle ne voulait plus le voir et qu'il ne verrait plus son fils. Si tu t'approches, j'appellerai la police et je leur dirai que toi et ta famille n'avez pas de papier et vous serez expulsés. Ensuite, elle lui a donné un coup de poing et elle lui a ouvert la lèvre. C'est là qu'il m'a dit qu'il partait et qu'il nous a fait promettre à ma femme et à moi de prendre soin d'Anthony. Je pense que Heather aurait été capable de le dénoncer à la police. C'était tout à fait son genre. Elle était prête à tout. C'est une photo d'Anthony et moi. Son sourire me manque. On se ressemblait beaucoup avec Anthony, même si ce n'était pas mon fils. Peut-être parce qu'on a partagé des moments de bonheur ensemble et qu'il savait que j'étais là pour lui et que je l'aimais. On a toujours été là pour lui. Quand je vois des photos de lui avec ce grand sourire et la joie qui se lit sur son visage, je sais qu'il était heureux. Mais je me sens coupable, parce que je lui avais promis de le protéger et je n'ai pas réussi. Si on était aussi proche avec Anthony, c'est parce que très tôt, on a compris qu'Heather le traitait de la même manière que ma mère nous avait traités. Alors j'ai voulu être la figure paternelle qui lui manquait. Je voulais qu'il se sente rassuré. C'est une photo de ma sœur et moi à une fête de famille. Je crois que c'était l'anniversaire des heures. C'est dur de regarder ce genre de photos, parce qu'on a quand même passé des bons moments. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse faire une chose pareille. Elle était tellement cruelle, et nous, on n'a rien vu. C'était un loup déguisé en mouton. Cette personne a réussi à mentir à toute notre famille, et à moi en premier. Je la défendais toujours auprès de tout le monde. Mais elle nous a tous bernés. Quand on me pose des questions sur ma famille, je dis toujours que j'ai deux sœurs, mais que l'une d'entre elles ne fait plus partie de ma famille.
Heather s'énervait très facilement avec ses enfants. Elle leur hurlait dessus à la moindre occasion. Elle leur jetait des choses à la figure. Elle les insultait. Un jour, Heather est venue me voir avec Anthony. Anthony était un peu excité. Il était resté enfermé. Il était content d'être chez moi. Et Heather n'arrêtait pas de le disputer. Elle a fini par prendre mon aspirateur et elle l'a frappé avec le tube. Anthony a immédiatement changé de comportement. Ça a été instantané. Lui qui voulait jouer et qui était plein d'énergie s'est complètement fermé et il s'est mis à pleurer. J'ai tout de suite dit à Heather, « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a dit de m'occuper de mes affaires et qu'elle punissait ses enfants comme elle le voulait. J'en ai beaucoup voulu à ma sœur. Je ne comprenais pas comment elle pouvait faire ça à son enfant. Surtout vu ce qu'on avait enduré. Il y a punir un enfant et aller trop loin. Pour moi,
je suis là pour assurer le suivi d'une demande d'intervention auprès de la protection de l'enfance.
De quand date la demande ?
Hier soir, fin d'après-midi.
Ça doit venir d'un père.
Salut mon grand, comment tu vas ?
À ce moment-là, j'avais déjà fait plusieurs signalements auprès des services sociaux. Mais aucun d'eux n'avait été pris au sérieux. Heather avait toujours une bonne excuse pour tout. Cet enfant a jeté un jouet sur l'autre enfant. C'est pour ça qu'il a un bleu. Ou alors, il s'est cogné contre la table basse. Il est tombé.
Il s'est battu avec son frère.
D'accord.
Angel a griffé Junior avec ses ongles.
D'accord.
Et Angel a un petit bleu juste là.
Heather ne savait pas que c'était moi qui avais appelé les services sociaux. Si elle avait su que ça venait de moi, elle aurait coupé les ponts et je n'aurais plus jamais vu les enfants. Alors ça a été terriblement frustrant et douloureux pour moi que rien n'ait été fait.
D'accord.
Merci.
Merci, bonne journée.
À vous aussi.
C'est une photo d'Anthony que j'ai prise au parc. Je venais d'avoir un nouvel appareil photo et on a organisé une petite séance photo avec ses cousins. Je me souviens qu'il me disait « prends-en une autre, tata !» Il profitait de tous les instants. Dans ces moments-là, je sais qu'il était vraiment heureux. C'était un enfant très affectueux. Il adorait faire des câlins et faire rire. Il était très protecteur et toujours prêt à aider. On n'avait pas besoin de lui répéter de venir aider. Parfois, il venait par derrière, il me faisait un gros câlin et il retournait jouer avec ses cousins. Je donnerais n'importe quoi pour avoir un dernier câlin de lui.
Un jour, j'ai invité des amis à regarder un match de foot à la télévision. J'ai invité Heather et Karim est venu. J'avais rencontré Karim dans un entrepôt où je travaillais. Il m'avait parlé de ses deux filles et on était devenus amis.
J'ai rencontré Karim un jour où j'avais été invité chez mon frère. Je me souviens qu'il m'avait fait une très mauvaise impression. Je savais qu'il plairait à ma sœur. Je l'ai tout de suite regardé et je lui ai dit, n'y pense même pas. Non. Il y avait quelque chose chez lui qui ne me plaisait vraiment pas. Il dégageait quelque chose de mauvais.
Ils se voyaient déjà depuis un mois ou deux quand on a appris qu'ils étaient ensemble. C'est là que Karim s'est installé chez Heather. C'est difficile d'expliquer ce que je ressens, mais je me sentirais coupable jusqu'à la fin de mes jours. Si je ne les avais pas présentés, rien de tout cela ne serait arrivé. Ma femme me dit tout le temps que ce n'est pas ma faute. Mais à l'origine, c'est moi qui les ai présentés. Je ne pourrais jamais m'enlever ça de la tête. Un jour, Anthony était chez moi. Il jouait avec les enfants. Il a retiré son pull et on a remarqué qu'il avait des griffures au bras. On lui a demandé d'où ça venait. Et il nous a dit qu'il était tombé en jouant. Au début, on s'est dit que c'était normal pour un garçon. Mais ensuite, j'ai remarqué une trace de main sur sa cuisse. Cette fois, il a dit que c'était son petit frère qui l'avait frappé. Il avait 2 ans de moins que lui. Or, c'était la trace d'une main d'adulte. On était mal à l'aise. Alors on lui a posé plein de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était toujours à cause du basket ou du foot. Quelqu'un l'avait frappé ou poussé. Il n'a jamais reconnu que c'était sa mère ou son petit ami.
Je vais me faire disputer?
Non. Non, tu ne vas pas te faire disputer. Avec ma femme, on s'est senti mal. On se demandait ce qu'il ne nous disait pas. Et moi, j'étais encore plus mal à cause de ce qu'on avait vécu enfant. Je devais dire la même chose à l'époque. Savoir qu'Anthony a vécu la même chose que moi, c'est encore plus douloureux. Je sais ce qu'il devait ressentir. Moi, j'étais terrifié à l'époque. Alors j'imagine très bien ce qu'il a dû vivre. Un jour, Anthony et ses frères et sœurs étaient chez nous. Le frère d'Anthony est allé aux toilettes. 5 minutes plus tard, il y est retourné. Il n'arrêtait pas d'y aller. Au bout d'un moment, je suis allé voir ce qui se passait. J'ai ouvert la porte et je l'ai vu dévorer une banane. Il mangeait même la peau. À ce moment-là, on s'est assis avec eux et on leur a posé des questions. Il m'a dit qu'il avait faim et qu'il avait mangé les bananes en entier pour ne pas laisser de traces. Et il s'est mis à pleurer parce qu'il avait peur de se faire disputer. Je lui ai dit qu'il n'allait pas se faire disputer, qu'il avait le droit de manger et qu'il n'était pas obligé de se cacher, qu'il fallait qu'il nous le dise s'il avait faim. Ici, tu peux manger tout ce que tu veux, tu n'es pas obligé de te cacher. Sa mère nous avait dit qu'il avait mangé avant de venir. Mais lui nous a dit qu'il n'avait rien mangé depuis la veille. Je lui ai demandé ce qu'il avait mangé la veille. Il a dit un burrito congelé, encore congelé. C'est tout ce que Karim nous donne. Ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est que je leur ai dit qu'on serait toujours là pour les protéger. Qu'il fallait qu'ils nous disent la vérité. Et c'est là qu'ils ont commencé à raconter. Quand ils ont commencé à se sentir en confiance après la première histoire, ils en ont raconté d'autres. C'est terrible de se dire qu'on peut faire ça à des enfants. Je ne ferai jamais ça à mes enfants.
Il se passait tellement de choses, mais on n'en avait aucune idée. Jusqu'à ce jour-là. Karim pinçait et tordait l'oreille des garçons. Il leur criait dessus, il leur lançait des choses, il les faisait se battre entre eux. Ils étaient obligés de faire les poubelles s'ils voulaient manger.
J'ai dit à David qu'il fallait intervenir. Les choses n'allaient pas s'arranger. Et David a dit qu'il appellerait la police quand Heather arriverait. C'était très risqué pour nous. On risquait de ne plus pouvoir voir les enfants si une plainte était déposée. Et que Heather les récupérait quand même. Mais il fallait faire quelque chose. On était prêts à prendre ce risque pour aider nos neveux et nièces.
Ce soir-là, Heather est venue récupérer les enfants en sortant du travail.
Où sont les garçons ?
C'est là qu'on lui a dit qu'on allait les garder chez nous. Heather a voulu monter à l'étage, mais ma femme l'en a empêché.
Les enfants ont toujours été ma priorité, et ensuite ma sœur. Quand je l'ai regardée, elle était totalement déshumanisée. C'était devenu un monstre, petit à petit.
Et là, on a appelé la police.
Quand vous voulez.
J'ai parlé avec les enfants. Et ce qu'ils m'ont dit ne m'a pas encouragé à les laisser partir. Je ne vais pas les laisser partir. Ils m'ont dit que ce fameux Karim, que j'ai déjà mentionné, était maltraitant. Il leur donnait des coups de ceinture sur les jambes. Anthony a même dit qu'il lui avait donné un coup de ceinture dans le visage. Il aurait aussi tenu le plus jeune par les chevilles, au-dessus des escaliers. J'ai tendance à croire les enfants. Ils avaient l'air assez choqués quand je leur ai parlé. La mère, pour l'instant, est d'accord pour les laisser chez son frère. Et le frère est d'accord pour les garder.
C'est un enregistrement audio du shérif adjoint qui est venu chez moi le soir où j'ai appelé la police. Il a décidé de ne pas faire rentrer les enfants chez eux. À ce moment-là, on leur a fait comprendre qu'ils allaient habiter avec nous et qu'on serait leurs nouveaux parents. Les enfants étaient ravis en apprenant qu'ils allaient rester chez nous. Ils étaient radieux, ils ont sauté de joie et ils nous ont pris dans leurs bras comme si on était leurs nouveaux parents. Ça nous a donné beaucoup de faux espoirs, parce qu'à cet instant, on pensait que c'était terminé. On était persuadés que les enfants seraient en sécurité. Mais ils nous ont arraché le cœur et ils ont marché dessus.
Heather leur a dit que Karim ne serait plus jamais là, qu'ils iraient au parc, qu'ils seraient heureux et que ce serait une meilleure mère. Mais pour ça, il fallait que les enfants disent à tout le monde qu'ils avaient menti. Et c'est ce qu'ils ont fait.
On m'a dit qu'il fallait que je rende les enfants à la fin de la semaine. Je les ai suppliés. Je leur ai dit que si on lui rendait ses enfants, d'ici 5 ans, l'un d'entre eux serait mort.
Ici les pompiers, je vous écoute.
Mon fils ne respire plus.
Pardon ?
Mon fils ne respire plus.
Quelle est votre adresse ?
Appartement 16. Venez vite, dépêchez-vous.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est cogné la tête hier et...
D'accord.
Et ça allait, mais aujourd'hui, il était bizarre.
Il était sonné ?
Il ne respire plus, il est tout bleu.
C'est l'appel d'urgence que Heather a passé le 20 juin. Elle a fait semblant de pleurer, comme quand elle voulait qu'on se fasse punir. Elle avait de l'entraînement. Elle leur a dit qu'il s'était fait mal tout seul. Elle savait ce qu'elle allait dire. Elle savait ce qu'elle était censée faire. C'est révoltant. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont dit qu'Anthony ressemblait à un zombie. Il devait être allongé là depuis déjà 3 jours quand ils ont appelé les secours.
Quand Maria est arrivée à l'hôpital, elle a vu qu'Anthony était en réanimation. Maria m'a dit qu'il était méconnaissable. Il était extrêmement maigre et plus grand que dans nos souvenirs. On lui voyait toutes les côtes. Il n'avait pas de muscles sur les bras. Il était très amaigri, ses yeux étaient enfoncés, ils étaient noirs et injectés de sang. Elle a demandé à Heather ce qui s'était passé, parce qu'elle avait compris que ce n'était pas un accident. Heather s'est énervée et elle a demandé au shérif qui était devant la chambre de faire sortir Maria de l'hôpital. Ma femme m'a dit qu'elle était tombée à genoux en pleurs au pied d'Heather et qu'elle lui avait demandé pardon pour tout ce qu'on avait fait. Elle a continué de s'excuser jusqu'à ce qu'Heather l'autorise à revenir. Ma femme m'a raconté que les infirmières étaient en pleurs pendant qu'elle s'occupait de lui. Il avait des brûlures de cigarettes sur le torse. Ses genoux étaient tout écorchés. Il n'avait plus de cils parce qu'elle lui frottait de la sauce piquante sur le visage et ça lui avait brûlé les cils. Plusieurs d'entre elles lui ont dit que c'était le pire cas de maltraitance qu'elles avaient jamais vu. Et qu'il avait très peu de chances de survie. Je me suis effondré en larmes. J'ai craqué. Je ne savais pas quoi faire.
C'est une photo d'Anthony à l'hôpital. Il était relié à tous ces tuyaux qui le maintenaient en vie. Il ne méritait pas ça. Je ne peux pas regarder. Je suis désolée. C'est dur de regarder cette photo, parce que ce sont ses derniers jours. Et je sais tout ce qu'il a traversé. Toute la souffrance qu'il a dû endurer. C'est ma sœur qui lui a fait ça. Avec son copain. Il n'avait rien fait pour mériter ça. Il n'y a rien au monde qu'il aurait pu faire pour mériter ça. Vers 6 heures du matin, j'ai reçu un appel de Maria qui m'a dit qu'ils allaient débrancher Anthony. Son corps ne pouvait plus lutter. Il était en état de mort cérébrale. Et 30 minutes plus tard, Anthony est parti. Heather était dans le couloir. Elle essayait de convaincre tout le monde qu'elle n'était pas responsable quand il est mort. Il est mort tout seul. Elle aurait dû être auprès de lui. Pour qu'il se sente au moins un peu aimé. Sachant que c'était la dernière chose qu'il allait ressentir. Au lieu de le laisser seul, non désiré et mal aimé.
Quand j'ai appris qu'Anthony était décédé, j'ai été submergé par la culpabilité. C'est là que j'ai commencé à me dire que je l'avais laissé tomber. Si je pouvais parler à Anthony aujourd'hui, je lui dirais que je suis désolé de ne pas avoir pu le protéger. Je lui dirais que je l'aime et que je ferai tout mon possible pour que ce genre de choses n'arrive à personne d'autre.
Il avait des brûlures de cigarettes partout sur le corps. Ça m'étonnerait. Je vous assure, il est brûlé sur tout le corps, comme si on l'avait traîné sur la moquette.
Non.
Et il y a une tache de sang dans sa chambre.
Ça, c'est quand il s'est battu avec Junior.
Avec Junior?
Ouais.
Ça a fait une tache de sang.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi.
Junior a 7 ans. C'était quand, cette bagarre?
Il se bagarre tout le temps.
Il se bagarre au point de faire une tache de sang. Vous êtes en train de me dire que c'est un enfant de...
J'ai pas dit que c'était lui. Vous m'avez demandé ce qui s'était passé.
C'est le premier interrogatoire de Karim avec la police. Il fait la même chose que Heather. Il fait porter le chapeau aux enfants pour se disculper. Mais tout ce qu'il dit est complètement faux. Il a l'air agacé par le fait qu'on l'interroge. Il n'a pas envie d'être là. Il se croit au-dessus de tout ça. Il se fiche qu'Anthony soit mort. Il veut juste qu'on arrête de l'embêter avec ça pour pouvoir passer à autre chose. Quand Heather et Karim ont été arrêtés, ça a été un soulagement de me dire que les autres enfants ne risquaient plus rien. Heather était un monstre, et Karim aussi. Les deux ensemble, c'était comme jeter de l'huile sur le feu.
Heather Barron est accusée de meurtre et de torture suite à la mort de son fils de 10 ans, Anthony Avalos.
La première fois que j'ai vu Heather au tribunal, elle ne nous a pas regardés. Elle avait un air suffisant. Elle ne laissait paraître aucune émotion. Ça m'a excédée. J'avais envie de lui sauter dessus, de la secouer et de lui demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'es pas triste que ton fils soit mort ?» Je suis très en colère. C'était son bébé. Son rôle était de le protéger. C'est une copie de ma déclaration de victime que j'ai lue avant le verdict de Heather et Karim. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie de dire. Voici un extrait de ce que j'ai écrit. Je regarde souvent le beau visage de mes enfants et je me dis que la maternité est quelque chose de formidable. Comment Heather a-t-elle pu ne pas le voir? Comment a-t-elle pu regarder Karim battre ses enfants? Comment a-t-elle pu faire du mal à ses propres enfants? Comment a-t-elle pu les regarder souffrir? La vie d'Anthony a été fauchée par les actes égoïstes de Heather et Karim. Aucune larme. Aucune prière, aucun vœu ne pourra le faire revenir. Ces deux-là sont des monstres. Et leur place est dans une cage. S'il vous plaît, faites en sorte qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne. C'était une journée chargée d'émotions. Mais il fallait que je prononce ces mots, en espérant que ce que je disais rentre dans l'une de leurs têtes. Le jury a considéré qu'il y avait suffisamment de preuves pour que la peine de mort soit prononcée. Mais quand le nouveau procureur de Los Angeles a pris ses fonctions, il l'a supprimé. Mais pour moi, elle la méritait. Je n'aurais jamais pensé dire un jour que ma sœur mérite la peine de mort. Mais ce jour est arrivé, et ce n'est plus ma sœur.
Avant l'enterrement d'Anthony, la famille s'est réunie et on a décidé de célébrer sa vie plutôt que de le pleurer. On a choisi le thème des super-héros parce qu'à nos yeux, c'était un super-héros. Quand un enfant se faisait embêter à l'école, il devenait ami avec lui pour le protéger. Il jouait avec lui, il faisait pareil avec ses frères et sœurs, il était très protecteur. Ça montre la belle personne qu'il aurait pu devenir. Il aurait sûrement participé à changer le monde. C'est pour ça que je l'appelle mon super-héros. Quand je pense à ce qu'il a traversé, on a enduré beaucoup de choses similaires, mais moi, j'ai survécu. Parfois, je me demande pourquoi moi et pas lui.
Il me manque tellement. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui. À son sourire et à ses câlins. Il faisait des super câlins. Il nous faisait des câlins sans raison particulière. Il nous disait qu'il nous aimait. J'espère qu'Anthony sait qu'il n'est pas mort en vain. Qu'il sait qu'on continue de se battre pour lui, pour ses frères et sœurs, et pour les autres enfants. Et que ça va changer. C'est lui qui aura fait la différence, et qui aura permis de sauver des vies comme il le voulait. Il me manque. Tellement.
Il y a, au cœur de la ville, un petit parc que la plupart des passants traversent sans vraiment le voir. Il n'a rien de grandiose, quelques allées bordées d'arbres, un étang minuscule où l'eau frissonne au moindre vent, et ses bancs de bois peints en vert, alignés comme des vieux soldats au repos. Mais, à l'extrémité de l'allée principale, juste sous un grand marronnier, il y a un banc différent des autres, non pas par sa forme ou sa couleur, mais par ce qu'il porte chaque matin. Une fleur. Une seule. Déposée avec soin, comme si chaque pétale comptait. Ce geste, personne ne sait exactement quand il a commencé. Mais tous ceux qui fréquentent le parc tôt le matin savent qu'il vient de lui. Un vieil homme. Silhouette mince, manteau gris, qui flotte autour de lui, chapeau légèrement incliné, comme s'il s'excusait d'être là. Il marche d'un pas lent, mais pas hésitant. On dirait qu'il connaît chaque fissure du chemin, chaque racine qui affleure la terre. Dans sa main, toujours la même chose, une fleur fraîche. Parfois une rose, parfois un œillet, parfois une simple marguerite cueillie au bord d'un chemin. Il s'arrête devant le banc, essuie doucement la planche de bois comme on caresse un visage aimé. Puis il pose la fleur, à gauche du siège, toujours au même endroit. Et reste là, immobile, à regarder l'horizon, quelques secondes, parfois une minute entière, avant de repartir, les mains vides. Personne ne lui a jamais demandé pourquoi. Peut-être par pudeur, peut-être par respect pour ce rituel qui semble appartenir à un autre temps. Mais il y a, dans la manière dont il dépose cette fleur, quelque chose qui force le silence. On ne peut pas interrompre ce moment, comme on ne peut pas interrompre le vent dans les feuilles ou le chant d'un oiseau. Les premiers jours où je l'ai vu, j'ai pensé que c'était un hommage à quelqu'un. Une personne disparue, peut-être, mais plus je l'observais, plus je comprenais que ce geste n'était pas seulement tourné vers le passé, il portait aussi une douceur tournée vers le présent. Comme si cette fleur était un pont invisible entre ce qui avait été et ce qui est encore. Un matin d'hiver, alors que le parc était désert et que le froid avait figé les flaques d'eau en petites plaques de verre, je l'ai vu arriver. Dans sa main, une fleur jaune éclatante. Elle détonnait dans ce décor glacé. Il s'est approché du banc, a soufflé un peu sur l'endroit où il allait poser la tige pour chasser les cristaux de givre. Puis, au lieu de repartir aussitôt, il s'est assis. Et j'ai vu ses épaules s'affaisser comme si ce banc, ce matin-là, avait accepté de porter un poids invisible. Son regard ne fixait rien de précis. Il passait sur les arbres nus, sur les oiseaux qui picoraient au sol, sur le ciel pâle. Mais il y avait dans ses yeux quelque chose qui ne cherchait pas à voir, seulement à se souvenir. Sa main tremblait légèrement, et pourtant, quand il a effleuré la fleur du bout des doigts, ce geste était sûr, précis, tendre. Les passants qui traversaient le parc à cette heure matinale ne le remarquaient pas toujours. Ils pressaient le pas vers leurs obligations, portés par l'urgence du jour qui commence. Mais, pour ceux qui prenaient le temps de ralentir, cette image restait. Un vieil homme, un banc vide, une fleur. Et entre eux, un silence habité. Ce silence, c'est lui qui raconte, plus que les mots, plus que les histoires qu'on pourrait inventer. Il porte la trace d'une fidélité, une fidélité qui ne demande rien en retour, qui n'attend pas de témoins, qui ne se lasse pas. Une fidélité qui résiste aux saisons. Et chaque matin, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige ou que le soleil brûle, la fleur est là. Et lui aussi. Ce jour-là, après un long moment, il s'est levé. J'ai cru qu'il allait repartir. Mais il a glissé une main dans la poche intérieure de son manteau et en a sorti une petite enveloppe blanche. Il l'a posée juste à côté de la fleur. Puis il est parti. Lentement. Comme toujours. Quand il a disparu au détour de l'allée, il ne restait plus que ce banc, cette fleur et cette enveloppe. Le vent a soulevé un coin du papier, révélant un mot écrit à l'encre bleue. Un prénom. Juste un prénom. Et c'est ainsi que j'ai compris que cette histoire n'était pas seulement celle d'un vieil homme et d'un banc. C'était celle d'un lien qui survit, même quand tout semble fini. Le lendemain matin, j'étais de nouveau là. Le froid piquait les joues et un brouillard léger s'accrochait aux branches nues. Pour Ange nu, on devinait à peine les formes du parc, comme si tout avait été adouci par une brume volontaire. J'avais en tête cette enveloppe blanche posée la veille, ce prénom écrit à l'encre bleue. Je me demandais si elle serait encore là. Mais en arrivant, je vis que l'endroit où elle reposait était vide. La fleur, elle, avait disparu aussi. Seule restait une trace presque invisible, une petite marque plus claire sur le bois, à l'endroit précis où la tige avait été posée. Je crus un instant que peut-être, la veille, quelqu'un d'autre avait pris la fleur. Mais, au bout de l'allée, sa silhouette apparut, le vieil homme. Il avançait avec ce pas régulier, mesuré, que j'avais déjà observé. Dans sa main, une fleur nouvelle, cette fois d'un rouge profond. La couleur semblait plus vive encore dans la lumière terne du matin. Il s'arrêta devant le banc, essuya doucement l'assise avec son mouchoir et déposa la fleur, exactement au même endroit que toujours. Puis, il s'assit. Je restais à distance, ne voulant pas troubler ce rituel. Ses mains se posèrent sur ses genoux, paumes ouvertes, comme s'il attendait quelque chose. Son regard glissait du banc au sol, puis vers les arbres, puis revenait toujours au même point invisible, quelque part devant lui. Il restait ainsi, immobile. Et pourtant, on sentait en lui une activité intense, celle des souvenirs qui travaillent en silence. Le vent fit tomber une branche fine, qui roula presque jusqu'à ses pieds. Il se pencha lentement, la ramassa. Puis, avec une précision étonnante pour ses doigts tout noueux, il dessina dans la poussière humide du sol. Des lettres. J'eus le temps d'en lire quelques-unes. Ce n'était pas un mot entier, juste des initiales. Puis, il les effaça d'un geste, comme si le simple fait de les tracer suffisait et que les laisser visibles aurait été une trahison. Ce geste, je l'ai trouvé bouleversant. Parce qu'il disait tout. Qu'on écrit parfois non pas pour que les autres lisent, mais pour se souvenir soi-même. Un couple passa derrière lui, parlant bas. La femme jeta un coup d'œil vers le banc, ralentit un instant, puis reprit sa marche, comme si cette scène imposait un respect silencieux. Et lui, il ne bougea pas. Pas même lorsque le clocher de l'église voisine sonna l'heure. Il restait là, fidèle à ce moment précis du matin, à cet espace minuscule qui semblait lui appartenir. Au bout d'un long moment, il sortit de sa poche un petit carnet, couvert de cuir usé, fermé par un élastique détendu. Il le posa sur ses genoux, le caressa un instant, comme on caresse un objet précieux, puis l'ouvrit. Les pages étaient remplies d'une écriture fine et serrée. Je ne pouvais pas lire de là où j'étais, mais j'apercevais des dates en marge. Des années entières semblaient s'être déposées là, une après l'autre. Il écrivit quelques lignes, lentement, comme si chaque mot pesait, puis il referma le carnet, remit l'élastique et le glissa de nouveau dans sa poche. En se levant, il posa la main sur la fleur, comme pour lui transmettre un peu de chaleur. Puis il s'éloigna, son ombre se dissolvant peu à peu dans la brume. Je restai là un moment. Le banc, avec cette fleur rouge posée sur le bois, semblait soudain devenir le centre de tout le parc. Chaque feuille morte, chaque souffle de vent semblait tourner autour. Je m'approchai enfin. La fleur était fraîche, son parfum discret mais présent. Sous la tige, je remarquai une chose que je n'avais pas vue avant. Une petite rayure dans le bois, presque polie par le temps. Deux lettres gravées, les mêmes initiales que celles qu'il avait tracées dans la terre. Je me suis assis, doucement. Il y avait sur ce banc une chaleur étrange, comme si le bois lui-même se souvenait, et en posant ma main sur les lettres gravées, j'ai eu la sensation, fugace mais réelle, d'entrer dans une histoire qui ne m'appartenait pas encore, mais qui m'acceptait déjà. Le lendemain, j'étais arrivé plus tôt encore. Le ciel commençait à peine à pâlir, et les lampadaires diffusaient une lumière douce qui faisait briller l'humidité sur les feuilles. Je voulais le voir arriver, le suivre du regard depuis le moment où il entrerait dans le parc. Le bruit lointain de ses pas sur le gravier finit par rompre le calme. Cette fois, il ne portait pas son chapeau. Ses cheveux blancs, d'une finesse presque transparente, prenaient la teinte dorée des premières lueurs. Dans sa main, une fleur bleue, rare, une de ces fleurs qui semblent Jacques sorties d'un rêve, à la couleur si fragile qu'on craint qu'elle disparaisse au soleil. Il marchait comme toujours. Mais je remarquais que ses yeux cherchèrent quelque chose, non pas autour de lui, mais dans l'air même qu'il respirait, comme s'il suivait une trace invisible. Arrivé près du banc, il s'arrêta, effleura le bois du bout des doigts, puis, au lieu de s'asseoir, il leva les yeux vers le grand marronnier au-dessus. Son regard s'attarda sur une branche, juste au-dessus du dossier. Et là, dans ce silence suspendu, j'ai compris qu'il se souvenait. Il posa la fleur, mais cette fois avec une lenteur encore plus grande, comme si chaque geste avait été répété 1000 fois dans sa mémoire avant d'être exécuté. Puis, il sortit de sa poche, non pas le carnet, mais un objet que je n'avais jamais vu. Une petite boîte métallique, cabossée, refermée par un minuscule loquet. Il l'ouvrit, et de là, entre ses mains ridées, apparut une photo pliée. Le vent se leva légèrement, et je vis l'image se détacher dans la lumière. Une femme. Je ne distinguais pas bien son visage de loin, mais je devinais un sourire doux, un regard clair. Elle était assise sur ce même banc. Les fleurs du marronnier formaient un halo au-dessus de sa tête, et elle tenait un livre ouvert sur ses genoux. Il regarda la photo longtemps. Ses lèvres remuèrent, mais aucun son ne franchit l'air entre nous. Peut-être prononçait-il un prénom. Peut-être répétait-il les mêmes mots chaque matin, comme un rituel parallèle à celui de la fleur. Puis, il replia la photo, la remit dans la boîte et la rangea dans sa poche. Il ferma les yeux quelques instants et, dans ce geste minuscule, il y avait quelque chose de vaste, comme si, en les fermant, il ouvrait un passage vers un autre temps. Un merle s'est posé non loin, picorant le sol gelé. L'homme a tourné la tête vers lui et un sourire léger a traversé son visage. Un sourire qui n'appartenait pas au présent, mais à un souvenir lointain où ce merle avait peut-être déjà existé, ou du moins, quelque chose de semblable. Puis il s'est assis, mais pas comme les autres jours. Cette fois, il a laissé son dos se reposer contre le dossier, ses mains croisées sur sa poitrine, comme si le banc lui-même devenait un refuge. Je sentais que ce moment avait une importance particulière. Comme si, ce matin-là, le temps s'était replié sur lui-même pour lui offrir une place où passé et présent pouvaient s'asseoir ensemble. Il murmura quelques mots, à peine audibles. J'ai cru entendre « comme avant ». Ou peut-être encore un peu. Puis il se leva, caressa la fleur bleue et resta là, debout, une main posée sur le bois, comme pour sceller quelque chose. Quand il s'éloigna, je m'approchai du banc. La fleur était toujours là, et je remarquai une petite chose. À côté des initiales gravées, il y avait maintenant un minuscule cœur tracé au crayon. si discret qu'il aurait pu passer inaperçu. Je passais mes doigts dessus. Le trait était frais. C'était lui qui venait de le faire. Un cœur maladroit, presque enfantin, mais si plein de tendresse qu'il me sembla battre encore. Je restai longtemps, à écouter le silence du parc, à sentir le parfum presque imperceptible de la fleur bleue. Et dans ce silence, j'entendis quelque chose qui n'était pas un bruit. C'était comme un souffle, ou une présence. Une trace laissée par un amour qui refusait de disparaître, même dans l'absence. Le jour suivant, je pris la décision de ne plus rester dans l'ombre. Jusqu'ici, j'avais observé de loin, respectant son espace, comme si franchir cette distance invisible pouvait briser quelque chose de fragile. Mais cette fois, je voulais m'approcher, non pas par curiosité, mais parce que j'avais l'impression que ce rituel n'avait pas seulement besoin d'être vu, mais aussi partagé. Le parc était silencieux, seulement animé par quelques craquements de branches sous le gel. Lorsque sa silhouette apparut au bout de l'allée, je remarquai un détail qui m'avait échappé jusque-là. Il ne regardait pas devant lui, mais légèrement vers le sol, comme s'il suivait un chemin intérieur plus que les allées du parc. Dans sa main, une fleur blanche, parfaite, d'une blancheur si pure qu'elle semblait irradier malgré la lumière pâle du matin. Je le laissai arriver jusqu'au banc. Comme toujours, il s'arrêta, essuya l'assise, posa la fleur exactement à la même place. Puis, il passa la main sur le bois, un geste lent, presque cérémoniel. C'est à ce moment-là que je fis quelques pas vers lui. Mes chaussures-tilles froissèrent vers le gravier, et il leva la tête. Ses yeux, clairs et fatigués à la fois, se posèrent sur moi. Il n'y eut pas d'étonnement, pas de méfiance, juste ce léger mouvement du visage qui indique qu'on attend qu'on parle. Je m'arrêtai à un pas du banc. « C'est une belle fleur, » dis-je doucement, comme si ma voix pouvait troubler le calme du lieu. Il baissa les yeux vers la tige blanche, hocha la tête, et répondit d'une voix basse mais assurée « Elle va aimer les lys, toujours les lys. » Ce « elle » flotta un instant entre nous, chargé d'une évidence que je n'osais pas briser. Je me contentais de m'asseoir à l'autre bout du banc, laissant un espace respectueux entre nous. Il resta debout quelques secondes, comme s'il hésitait, puis finit par s'asseoir aussi, posant ses mains noueuses sur ses genoux. « Vous venez souvent ici, non ?» demanda-t-il, mais ce n'était pas une vraie question. C'était plutôt une manière de dire qu'il m'avait remarqué depuis longtemps. Je hochai la tête. « Tous les matins où je peux, je crois que j'ai déjà vu cette fleur, et d'autres, toujours ici. » Il eut un petit sourire, mais ce n'était pas un sourire de fierté. Plutôt celui d'un homme qui reconnaît qu'un geste qu'il croyait invisible ne l'est plus. « C'est pour elle, » dit-il simplement. Il ne précisa pas son nom, mais je le sentais prêt à parler, si je lui laissais le temps. Alors je me tus, et ce silence, loin de peser, devint un espace où ses mots pouvaient naître sans hâte. Nous venions nous asseoir ici, tous les dimanches matin. Elle apportait un livre, moi le café. On restait là, parfois sans dire un mot, à regarder les enfants jouer, les couples passer, c'était notre banc. Ses yeux se perdirent un instant dans le vide, mais ses lèvres gardèrent un léger pli vers le haut, comme si rien, pas même l'absence, ne pouvait effacer la douceur de ses souvenirs. Et puis, le temps fait ce qu'il fait. Il prend, il emporte, mais il laisse aussi quelques endroits intacts. Ce banc, c'est le seul endroit que le temps n'a pas changé. Alors je viens, et je dépose une fleur, comme pour lui dire « Je suis là, je n'ai pas oublié ». Ses mains se serrèrent légèrement l'une contre l'autre. J'avais envie de poser des questions, de connaître son histoire entière, mais quelque chose en moi savait qu'il fallait avancer pas à pas. Alors je me contentais de dire « Elle devait aimer ces moments ». Il me regarda, et dans ses yeux, je vis une réponse silencieuse qui valait plus que n'importe quelle phrase. Nous restâmes là, côte à côte, à écouter le matin se lever autour de nous. Les bruits de la ville semblaient lointains, étouffés par cette bulle que formait le parc. À un moment, il sortit son petit carnet, l'ouvrit à une page, et écrivit quelque chose. Puis, il tourna le carnet vers moi. Il n'y avait que 4 mots, « Pour que tu restes ». Il referma le carnet sans explication, le glissa dans sa poche et se leva. Avant de partir, il posa sa main sur mon épaule, un geste bref mais lourd de reconnaissance. Puis, il s'éloigna, laissant derrière lui le banc, la fleur blanche et un silence habité. Je restai assis encore longtemps, relisant mentalement ces quatre mots. Et je compris qu'il ne s'adressait pas à moi. Il n'était mais pas non plus seulement pour elle. Peut-être était-il pour l'amour lui-même, pour qu'il ne s'efface pas. Le matin suivant, j'avais l'impression de marcher vers un rendez-vous que nous n'avions pourtant jamais fixé. L'air était plus doux, malgré la saison, et le ciel laissait filtrer une lumière dorée qui donnait aux feuilles mortes des éclats presque métalliques. J'aperçus sa silhouette bien avant qu'il ne me voie. Il avançait plus lentement que d'habitude, comme si chaque pas pesait un peu plus. Pourtant, dans sa main, la fleur semblait intacte, droite, comme protégée par une force invisible. Ce matin-là, c'était une rose jaune. Quand il arriva au banc, il me trouva déjà assis. Je m'étais placé légèrement sur le côté, laissant la place habituelle libre, comme pour respecter le territoire de ses gestes. Il me salua d'un simple mouvement de tête, puis posa la fleur à l'endroit habituel. Sa main resta un instant suspendue au-dessus, puis il la retira, comme on referme une porte doucement. « Elle aimait les roses jaunes, » dit-il, « mais seulement au printemps. Je lui en apportais toujours la première fois que j'en voyais. » Sa voix était douce, mais je percevais une tension, comme si chaque souvenir qu'il partageait réveillait une émotion qu'il devait retenir. Je lui demandais si elle venait encore au parc jusqu'à la fin. Il eut un regard qui se perdit dans l'allée, comme s'il cherchait la réponse au-delà des arbres. Jusqu'au bout. Oui. Même quand elle ne pouvait plus marcher longtemps. On s'asseyait, et elle fermait les yeux. Elle disait que le parc avait son propre silence, qu'il soignait. Je l'écoutais, sans chercher à combler les pauses. Chaque silence qu'il laissait avait un poids, une raison d'exister. C'était comme écouter un morceau de musique très lent, où chaque note compte plus que la précédente. Il sortit alors de sa poche la petite boîte métallique que j'avais déjà vue. Cette fois, il ne l'ouvrit pas tout de suite. Il la garda dans sa main, la tournant doucement, comme pour se préparer. « Vous savez, dit-il, ce banc, il est plus ancien que vous ne l'imaginez. Nous nous y sommes assis pour la première fois, il y a presque 50 ans. Il était déjà là, sous ce marronnier, un peu bancal, mais solide. Et nous étions jeunes. » Il ouvrit enfin la boîte et sortit la photo. Cette fois, il me l'attendit. La femme me regardait à travers le papier jauni par le temps. Ses yeux avaient cette clarté rare qui semble contenir de la lumière. Elle souriait, mais pas de ce sourire figé des photos. C'était un sourire en mouvement, comme si la joie venait juste de naître dans son regard. « Elle s'appelait Claire, » dit-il simplement. Je répétai son prénom à voix basse, et il eut un petit signe d'approbation, comme si le fait de le prononcer le faisait exister encore un peu plus. « On ne se rend pas compte, » continua-t-il, « à quel point un prénom peut être une maison. Chaque fois que je dis « Claire », je rentre chez moi. Nous restâmes là un moment, lui avec ses souvenirs, moi avec cette image dans les mains. Puis il la reprit doucement, la replia avec soin et la remit dans la boîte. « C'est étrange, » dit-il. « On croit que le temps efface, mais en réalité, il dépose, comme des couches fines, une sur l'autre. Et un jour, on se rend compte qu'on porte tout ça en soi. » Son regard se posa sur la fleur. « C'est pour ça que je viens. Pour déposer, moi aussi, chaque fleur est une couche, une manière de continuer à construire quelque chose, même si elle n'est plus là. » Il se leva, plus lentement que d'habitude, et posa la main sur mon épaule. « Merci de rester, » dit-il. Il s'éloigna, laissant derrière lui le banc, la rose jaune et un parfum presque imperceptible qui semblait rester dans l'air bien après qu'il ait disparu. Je restai assis longtemps. Les mots qu'il avait prononcés tournaient en moi comme si ce matin-là, le banc n'avait pas seulement porté ses souvenirs, mais aussi commencé à porter les miens. Les jours suivants, je ne me demandais plus si je devais venir. C'était devenu une évidence, comme si chaque matin, une ligne invisible m'attachait à ce banc, à cet arbre, à cette place que le vieil homme avait rendue sacrée. Le parc changeait imperceptiblement avec la saison. Les feuilles mortes s'accumulaient en petits tas, le long des allées, le vent les déplaçait, comme pour redessiner les contours du paysage. Les oiseaux étaient moins nombreux, mais leur chant, plus rare, semblait plus précieux. Ce matin-là, je le vis arriver avec une petite gerbe de fleurs sauvages. Pas une seule, comme d'habitude, mais un petit bouquet lié par une ficelle fine. Il s'approcha du banc, posa le bouquet au même endroit que toujours, puis, sans s'asseoir, leva les yeux vers moi. « Vous êtes là, » dit-il, comme si cela le réconfortait. Je lui répondis par un sourire. Il vint s'asseoir à côté de moi, sans un mot, comme si nous étions désormais liés par quelque chose de plus fort que la politesse. Nous restâmes ainsi un long moment, à écouter le bruissement des branches, puis il parla, la voix un peu plus basse que d'habitude. « Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. » Je tournai la tête vers lui, son regard était posé sur le bouquet. Chaque année, à cette date, je venais lui offrir exactement ce mélange-là, des fleurs que j'allais cueillir moi-même. Elle disait que c'était la preuve que j'avais marché assez longtemps pour penser à elle tout le chemin. Il eut un petit rire qui trembla dans l'air froid. « On a fêté nos 50 ans de mariage ici, sur ce banc. Pas dans un restaurant, pas dans une grande salle, juste ici. Elle avait apporté un gâteau dans un panier et moi, une bouteille de cidre. On avait partagé ça en regardant passer les enfants. Je pouvais presque voir la scène à travers ces mots. Deux silhouettes côte à côte, un panier ouvert, le bruit des éclats de rire qui se mélangent au souffle du vent. « Vous savez, » reprit-il, « le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, ce n'est pas quelque chose qu'on garde, c'est un moment qu'on vit et qu'on garde en soi. » Il sortit de sa poche le petit carnet. Cette fois, il l'ouvrit à une page beaucoup plus ancienne, les bords légèrement jaunis. Il me montra l'écriture, c'était une liste de dates, chacune accompagnée de quelques mots. Première fois qu'elle a souri sous la pluie, jour où elle a oublié son écharpe et que je l'ai portée autour de mon cou, ciel orange derrière le marronnier. Des souvenirs en vrac, notés comme on ramasse des cailloux sur un chemin. Il tourna les pages, doucement, s'arrêtant parfois, refermant les yeux comme pour revivre l'instant précis. Ce carnet, c'est ma manière de ne pas perdre la trace. Parce que la mémoire, parfois, se brouille, mais les mots, eux, restent nets. Il remit le carnet dans sa poche et inspira profondément. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore venir ici. Mais je veux que, quand je ne serai plus là, quelqu'un sache que ce banc a été aimé. Il posa sa main sur l'accoudoir, là où les initiales étaient gravées. Je ne veux pas qu'il devienne juste un morceau de bois oublié. Je sentis alors que sa main tremblait légèrement, et sans réfléchir, je posai la mienne par-dessus. Il ne bougea pas. Nos mains restèrent ainsi, comme deux témoins silencieux d'un pacte qui venait de se faire sans être dit. Puis il se leva, avec cette lenteur, qui n'était pas de la fatigue, mais une manière de prolonger chaque geste. « Merci d'être venu aujourd'hui, » dit-il avant de partir. « Ce matin comptait pour moi. » Je le regardais s'éloigner, son manteau gris se fondant peu à peu dans les arbres. Le bouquet restait là, éclatant de couleurs modestes, comme une poignée de lumière posée sur le bois. Et je sus que, désormais, je ne viendrais plus seulement pour le voir, lui, mais aussi pour veiller à ma manière sur ce banc et sur ce qu'il portait. Ce matin-là, l'air avait cette odeur de pluie qui précède les averses, une odeur humide qui s'accroche aux feuilles et rend le sol plus sombre. J'arrivais tôt, comme toujours, presque certain de le voir apparaître au bout de l'allée avec sa silhouette familière et une fleur entre les doigts. Je m'assis sur le banc, laissant la place vide là où il posait toujours la sienne. Je guettais. Le parc était calme, seulement traversé par le cri d'un corbeau qui résonnait au loin. Des gouttes légères commencèrent à tomber, dessinant des cercles parfaits sur la surface de l'étang. Mais il ne vint pas. Les minutes passèrent, puis une heure entière. Chaque bruit de pas sur le gravier me faisait lever la tête, espérant voir sa silhouette. Mais ce n'était jamais lui. La pluie se fit plus insistante, glissant sur mon manteau. J'attendis encore, incapable de me résoudre à partir. Au bout d'un moment, je me levai et marchais jusqu'à l'entrée du parc. J'espérais le croiser. Peut-être en retard. Mais la rue était vide, balayée par le vent. Ce vide-là n'était pas celui du parc. C'était un vide plus lourd, comme si quelque chose d'essentiel manquait à l'air lui-même. Je retournai au banc. La pluie avait lavé les planches, mais les initiales gravées restaient visibles, sombres, ancrées. Je posai la main dessus, et cette fois, ce fut différent. D'habitude, le bois transmettait une chaleur discrète, comme un écho de sa présence. Mais ce matin-là, il était froid. Le lendemain, j'y retournais encore plus tôt. Je scrutais chaque allée, chaque silhouette au loin. Et de nouveau, il ne vint pas. La fleur n'était pas là non plus. Le banc semblait orphelin. Les jours suivants, la même absence se répéta. Le parc continuait sa vie. Les pigeons se disputaient des miettes, les enfants passaient en courant, les feuilles tombaient lentement. Mais pour moi, chaque matin était marqué par ce vide, par ce coin de bois nu où aucune fleur ne venait plus se poser. Je me mis à chercher, pas en questionnant directement. Il y avait quelque chose de pudique dans son histoire qui m'empêchait d'aller frapper aux portes ou d'interroger les passants. Mais je demandai au gardien du parc s'il l'avait vu. Il fronça les sourcils, réfléchit, puis dit « Le monsieur au chapeau, ça fait bien une semaine que je ne l'ai pas croisé. » Une semaine. Ce mot résonna dans ma tête comme un temps immense. Pour moi, son absence se mesurait non pas en jours, mais en matins vides. Un après-midi, je passais devant la petite boutique de fleurs à l'angle de la rue. Une vitrine modeste où l'on voyait souvent des bouquets simples, comme ceux qu'il apportait. J'entrai. Derrière le comptoir, une femme d'un certain âge releva la tête. « Vous cherchez quelque chose ?» Je lui parlais du vieil homme, de ses fleurs, du banc. Son regard s'adoucit. « Oui, je vois de qui vous parlez. Il venait souvent ici. Il achetait toujours une seule fleur, jamais un bouquet. Il disait que c'était suffisant. » Elle hésita, puis ajouta « La dernière fois que je l'ai vu, il avait l'air fatigué. Il a pris une marguerite et il m'a dit « Peut-être la dernière, mais je veux qu'elle soit belle. » En sortant de la boutique, la lumière du soir avait une teinte plus froide. Mes pas me ramenèrent contagnés vers le parc presque malgré moi. Le banc était là, immobile, patient. Mais il me sembla ce soir-là plus fragile, comme si l'absence commençait à le creuser. Je m'assis, et pour la première fois, ce fut moi qui posai une fleur, une simple marguerite achetée à la boutique. Je la déposai à l'endroit exact, là où il l'aurait mise, et pendant quelques secondes, j'eus l'impression que le banc respirait à nouveau. Les jours qui suivirent, la marguerite que j'avais déposée perdit ses pétales un à un, comme si elle mesurait le temps de son absence mieux que moi. Le banc, lui, semblait attendre. Chaque matin, je venais, et chaque matin, il restait vide, couvert seulement de rosées ou de feuilles tombées. Un matin, après une nuit de pluie, j'aperçus un petit morceau de papier coincé dans la fente du dossier. Je le tirai doucement. C'était un coin de page arraché, trempé et froissé. On pouvait y lire, à l'encre pâlie, « Si je ne viens plus ». La suite était illisible, délavée par l'eau. Ce fragment, minuscule, me brûla les doigts. Je me surpris à parler tout haut, comme s'il pouvait m'entendre. « Où êtes-vous ? » L'après-midi même, je retournai à la boutique de fleurs. La femme me reconnut aussitôt et, avant même que je ne parle, elle dit « Vous vous inquiétez pour lui, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai. Elle me fit signe d'attendre, puis disparut dans l'arrière-boutique. Lorsqu'elle revint, elle tenait un petit sac en papier. Il me l'a laissé il y a 2 semaines. Il a dit « Si le jeune homme du parc passe, donnez-lui ça. » Le cœur battant, je pris le sac. À l'intérieur, il y avait un carnet. Pas le sien, mais un autre, plus petit, à la couverture bleue. En l'ouvrant, je découvris qu'il était presque vide. Seules quelques pages étaient emplies. La première disait « Pour toi, si tu veux continuer à déposer les fleurs ». Je sentis ma gorge se nouer. Les pages suivantes étaient une liste de dates, espacées d'un jour chacune, et à côté, le nom d'une fleur. 12 octobre, rose rouge. 13 octobre, lys blanc. 4 octobre, marguerite. Il avait préparé un calendrier pour que je sache exactement quoi déposer, jour après jour. « Vous savez où il est ?» demandai-je à la fleuriste. Elle hésita, puis finit par dire « Il est à l'hôpital, pas loin. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que vous veniez, mais je crois qu'il sera heureux de vous voir. » Je passai le reste de la journée à marcher autour du parc, incapable de franchir la porte de l'hôpital. J'avais peur. Peur de voir le corps fragile qui avait tenu si fermement à ses gestes. Peur aussi que ce soit un adieu. Le lendemain matin, pourtant, je pris une décision. J'achetai la fleur du jour, un œillet orange, et je marchai jusqu'à l'hôpital. L'odeur de désinfectant me saisit à l'entrée, me rappelant que ce n'était pas un lieu où l'on s'attardait pour rêver. À l'accueil, on m'indiqua sa chambre. Chaque pas dans le couloir résonnait trop fort. Quand j'ouvris la porte, il était là, assis dans un fauteuil, une couverture sur les jambes. Ses yeux se levèrent vers moi, surpris d'abord, puis illuminés d'un sourire lent. « Vous avez trouvé ?» dit-il simplement. Je lui montrai l'œillet, il tendit la main, le prit avec douceur et le regarda comme si c'était un trésor. « Vous l'avez mis sur le banc ?» demanda-t-il. « Pas encore. Je voulais vous le donner d'abord. » Il hocha la tête, puis me fit signe de m'asseoir. « Le banc, » murmura-t-il, « je veux qu'il continue à avoir sa fleur, même si ce n'est plus moi qui la dépose. » Ses mains tremblaient, mais elle gardait cette délicatesse intacte. Il posa l'œillet sur la table de chevet, puis ferma les yeux quelques secondes. « Vous savez, quand je ne pourrai plus y aller, ce ne sera pas la fin. Tant qu'une fleur sera posée là, elle saura que je pense à elle. » Je sentis ma gorge se serrer. Il rouvrit les yeux et ajouta « Ce n'est pas la fleur qui compte, c'est le geste, c'est dire, chaque matin, à quelqu'un qui n'est plus là, je n'ai pas oublié, tu es toujours là. » Je restai avec lui jusqu'à ce qu'il s'assoupisse. En partant, je pris l'œillet et allai le déposer sur le banc. Ce matin-là, plus que jamais, le banc sembla respirer. Les jours suivants, je pris l'habitude de passer d'abord par l'hôpital avant de rejoindre le banc. J'y venais tôt, souvent avec la fleur du jour dans la poche, parfois encore perlée de rosée. La chambre était toujours baignée de cette lumière pâle des matins d'hiver, et il m'accueillait d'un sourire tranquille, comme si ma présence faisait partie de son rituel désormais. Un matin, il semblait plus éveillé que d'habitude. Ses yeux avaient cette clarté particulière, celle qu'on devine chez quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose d'important. « Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter le tout premier matin, » dit-il. Il s'installa un peu mieux dans son fauteuil et ses mains se posèrent raidies sur ses genoux, comme pour tenir en place les souvenirs qui affluaient. Ce banc, on l'a trouvé par hasard. C'était un dimanche, un de ces jours où rien n'est prévu. On marchait sans but et il s'est mis à pleuvoir. Une pluie fine, persistante, qui vous trempe sans que vous vous en rendiez compte. On s'est réfugié sous le marronnier et il y avait ce banc. Elle s'est assise, a levé le visage vers les branches et a dit « C'est drôle. Même sous la pluie, ici, j'ai chaud. » Il ferma les yeux un instant, comme pour sentir encore cette chaleur. On a parlé de tout et de rien. Mais surtout, on a décidé que ce banc serait le nôtre. Pas besoin de promesses ou de clés. Juste, chaque fois qu'on aurait besoin de se retrouver, on viendrait là. Et on l'a fait, année après année. Il marqua une pause, ses doigts jouant avec le bord de la couverture. Les fleurs, elles sont venues bien plus tard, le jour où elle est tombée malade. Elle ne pouvait plus venir tous les jours, alors j'ai commencé à en déposer une chaque matin, pour qu'elle sache que je pensais à elle, même si elle n'était pas là. Son regard se perdit un instant vers la fenêtre, où un rayon timide effleurait le verre. Le matin où elle est partie, j'ai quand même pris une fleur. Je l'ai posée sur le banc, et j'ai compris que je le ferais jusqu'à ce que ce soit mon tour. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants mais sans larmes. « Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai donné ce carnet, ce n'est pas juste pour elle. C'est aussi pour le banc. Ce banc a vu plus de nous que n'importe quelle maison. Il a entendu nos silences, nos disputes, nos rires. Il nous a portés, littéralement, dans les moments où on n'en pouvait plus. Alors, il mérite qu'on continue à lui parler. Je ne trouvais rien à répondre. Les mots me semblaient inutiles face à ce qu'il venait de me confier. Alors, je me contentais de poser ma main sur la sienne. Il serra doucement mes doigts. « Un jour, » dit-il, « vous viendrez ici sans moi. Mais si vous déposez une fleur, je serai là. Croyez-moi. » Nous restâmes longtemps ainsi, les mains liées, à laisser les secondes s'étirer. Puis il s'assoupit, sa respiration lente emplissant la pièce d'un rythme apaisant. Je quittai l'hôpital sur la pointe des pieds, avec la fleur du jour dans ma poche, et en la déposant sur le banc, je me surpris à lui parler à voix basse, comme il le faisait. Comme si, déjà, je commençais à apprendre son langage silencieux. Les jours raccourcirent, et le froid devint plus mordant. Chaque matin, je marchais jusqu'à l'hôpital avant de rejoindre le banc. Le vieil homme parlait moins, mais ses silences étaient encore plus habités qu'avant. Parfois, il se contentait de me serrer la main en voyant la fleur du jour, comme si ce geste suffisait à tout dire. Un matin, la neige recouvrait la ville d'un manteau blanc. J'entrai dans sa chambre avec un lys, sa fleur préférée. Il dormait profondément. Je m'assis à côté de lui et attendis. Sa respiration était lente, régulière, presque imperceptible. Lorsque ses yeux s'ouvrirent enfin, ils se posèrent directement sur la fleur. Un sourire se dessina sur ses lèvres. « C'est parfait, » murmura-t-il. Il prit ma main, la garda entre les siennes et resta ainsi longtemps, le regard fixé sur un point invisible, quelque part au-delà de la pièce. Puis, dans un souffle, il dit « demain. C'est vous qui irez seul. » Je voulus protester, mais son regard me fit taire. Il y avait dans ses yeux cette certitude paisible de ceux qui savent que le temps qu'il leur reste est compté, mais suffisant pour dire l'essentiel. Merci pour les fleurs et pour le banc. Ce furent donc ses derniers 6 mots avant qu'il ne ferme les yeux à nouveau. Je restai encore à écouter sa respiration jusqu'à ce qu'elle se fonde dans le silence de la pièce. Le lendemain matin, la neige tombait toujours, épaisse et douce. Je marchais jusqu'au parc, la fleur du jour dans la main. Le banc, sous le marronnier, était presque enseveli, mais je dégageais doucement l'endroit précis où il posait toujours la tige. Je déposais la fleur, puis je restais là, les mains dans les poches, à regarder les flocons recouvrir le bois. Les jours qui suivirent, je continuais. Chaque matin, une fleur différente, comme il l'avait écrit dans le carnet. Parfois, un passant s'arrêtait, intrigué, mais personne ne posait de questions. C'était comme si le parc lui-même protégeait ce secret. Un matin de printemps, alors que les premières eaux feuilles vert tendre apparaissaient sur les branches, je trouvais quelque chose sur le banc. Un petit paquet enveloppé dans du papier craft, attaché avec une ficelle. Mon nom était écrit dessus. À l'intérieur, il y avait la petite boîte métallique, celle qui contenait la photo de Claire. Je la sortis, la regardai longuement. Elle me souriait, ce sourire vivant que j'avais vu tant de fois dans ses récits. Je la reposai dans la boîte, refermai le loquet et la glissai dans ma poche. Puis je déposai la fleur du jour, une marguerite, exactement à sa place. En me relevant, je sentis quelque chose de léger m'effleurer. Le vent, peut-être, ou bien cette présence discrète que j'avais toujours cru sentir près de lui. Désormais, le banc n'était plus seulement le leur. Il était aussi un peu le mien. Mais je savais que, chaque fois que je poserais une fleur, ce serait à eux que je parlerais. Et parfois, dans le murmure des feuilles ou dans la lumière du matin, j'aurais presque juré entendre sa voix dire doucement « Merci, pour que ça reste ».